voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Cette émission se propose de vous donner lecture de lettres échangées entre l'écrivain Marcel Proust et l'académicien Émile Malle, grand connaisseur des cathédrales en France. Ces lettres, 8 lettres inédites, appartenaient à sa fille, Mademoiselle Gilberte Émile Malle, qui vient de les offrir à la bibliothèque de l'Institut de France. Et c'est grâce à la bienveillance de Mireille Pastoureau, directeur et conservateur en chef de la bibliothèque de l'Institut, que Canal Academy peut aujourd'hui vous en proposer la lecture. Sur Émile Malle, vous trouverez dans la médiathèque de Canal Academy une émission en habit vert qui lui est entièrement consacrée, Émile Malle, le Champollion des cathédrales, le grand historien de l'art chrétien. Et il importe, avant d'entendre la lecture de cette correspondance, de savoir quelques détails que Marcel Proust avait énormément apprécié, vraisemblablement durant l'année 1899, la lecture du premier livre d'Émile Malle, « L'art religieux en France au XIIIe siècle », que Marcel Proust avait entrepris un travail qui exigeait de fortes connaissances en art et en architecture du Moyen-Âge, et qu'Émile Malle était à l'époque considéré comme le plus grand savant de ses disciplines. On notera que Proust s'adresse à Émile Malle avec beaucoup de déférence, de respect, d'admiration. Le spécialiste de l'œuvre de Proust, Philippe Kolb, a établi toute la correspondance de Proust et il a pu affirmer que les deux hommes se sont rencontrés en 1907. Dans la première lettre que vous allez entendre, datée de 1906, Proust exprime l'espoir de pouvoir un jour rendre visite à Émile Malle. Il voudrait lui demander quelques noms de lieux particulièrement émouvants par leur beauté architecturale.
45 rue de Courcelles, peu avant le 6 août 1906. Monsieur, je vous remercie infiniment de la lettre que vous avez bien voulu m'adresser et qui emprunte pour moi un si grand prix à l'admiration profonde que j'ai pour vous. Entre de bien obscurs témoignages de cette admiration, je me permets de vous envoyer un article que j'avais donné au Figaro. Il y a près de 2 ans de cela, peut-être plus, mais je n'avais pas osé vous le communiquer à l'époque tant je le trouvais mauvais. Mon sentiment n'a pas changé, mais le retrouvant par hasard au moment où je viens de lire votre lettre, je me permets de vous le faire parvenir pour la sympathie que vous y démêlerez. Tous ces sentiments, monsieur, j'avais espéré pouvoir vous les exprimer un jour de vive voix. Et mon pauvre ami Charles Effroussi, je peux bien l'appeler ainsi malgré la grande différence d'âge qu'il y avait entre nous, puisqu'il me témoigna toujours une si parfaite amitié, m'avait promis, si jamais j'allais mieux, et me trouvais en état de ressortir, de me faire rencontrer avec vous. Même lui n'étant plus là, j'aurais peut-être pu tâcher d'autres voies. Mais ma santé est devenue tellement mauvaise qu'il y a presque 1 an que je n'ai pas quitté soit mon lit, soit ma chambre. Si jamais, sans guérir, je peux me réaccoutumer à une vie un peu normale, je vous demanderai la permission d'aller un jour vous présenter mes hommages. Je suis sûr que d'un mot dit presque au hasard et qui me ferait longtemps rêver, vous pourriez me donner de grands motifs de joie en me disant quelques noms de lieux particulièrement émouvants par la beauté architecturale ou par le paysage et qui deviendraient pour moi des buts de pèlerinage quand par hasard je peux risquer une excursion ou un voyage. Mais tout cela, ce sont des rêves qui ne paraissent pas prêts de se réaliser. Si je peux quitter ma chambre, ce sera pour partir en voyage et je remettrai forcément à une autre année ou à jamais la joie de vous connaître. J'ai en tout cas voulu vous dire, monsieur, qu'il y avait une pensée qui suivait la vôtre avec beaucoup de ferveur, pensée qui n'a rien de bien précieux ni de bien rare, qui n'en est que plus représentative, car mon admiration pour vous n'est pas isolée et vous devez savoir combien vous avez su en susciter. Votre admirateur reconnaissant Marcel Proust. Bien entendu, ne prenez pas la peine de m'accuser réception de cette lettre, ni de l'absurde article. Mais si je me trouvais bientôt en état de partir en voyage, je me permettrais, peut-être du pays où je serais, peut-être Normandie, peut-être Bretagne, peut-être Savoie, peut-être environ de Paris, de vous écrire et de vous demander de m'indiquer quelques très belles choses à aller voir. Je suis entièrement ignorant des choses de l'architecture, et ce sera plutôt en vous, au poète, qu'à l'érudit, que je demanderai conseil. C'est en général le roman qui me touche le plus, mais il m'a semblé, dans un article que vous avez fait sur l'architecture romane pour un dictionnaire ou une encyclopédie d'art, que vous lui préfériez le gothique. En jetant pour la première fois après 2 ans un coup d'œil sur cet article, je m'aperçois qu'il est plein de fautes d'impression telles de mots sautés ou changés, de citations supprimées, qu'il n'a presque plus aucun sens. Mais je n'ai pas le courage de rétablir le texte probable, n'ayant plus aucun manuscrit net.
Finalement, Proust s'est décidé à partir, il a pu quitter sa chambre, voyager, et le lundi 6 août 1906, il est sorti, mais il s'est rendu seulement à Versailles. Dans une deuxième lettre, Proust reprend l'idée d'être conseillé par Émile Malle sur des lieux de pèlerinage, dit-il, dans des lieux vers lesquels il a si souvent voyagé en rêve. Mais en cette année 1906, il ne pourra faire aucun de ses voyages, comme je le disais, ne pouvant juste sortir de sa chambre que pour aller jusqu'au parc de Versailles.
Versailles, le mercredi 8 août 1906. Cher monsieur, votre lettre m'a infiniment touché. Vous y dites de si belles choses, comme de trouver dans les églises un enchantement de Vendredi Saint, que je suis un peu confus de les garder pour moi seul. J'ai un peu le sentiment de frustrer le public de quelque chose qui pourrait lui donner de la joie. Ce sentiment que devrait éprouver un collectionneur qui détient un tableau de musée. Si je ne vous ai pas remercié plus tôt, c'est pour ne pas vous fatiguer de mes lettres et attendre que je puisse vous demander quelques suggestions pour des pèlerinages à des églises ou des paysages. Puisque vous avez la bonté de me parler avec tant de pitié et de sympathie, l'état de santé qui me prive en effet de tout ce que j'aime dure depuis 10 ans. La violence des crises que provoquait le moindre voyage, la moindre promenade, m'était d'ailleurs une bonne manière de mesurer l'amour profond que je portais aux monuments du passé, puisque je savais le prix dont je paierais immédiatement les joies que je n'hésitais cependant pas à leur demander. Seulement la souffrance physique se mêlait si étroitement au plaisir de contemplation que, bien souvent, elle l'annihilait complètement. Aussi puis-je dire que je ne connais presque rien. En ce moment, je suis à Versailles, ayant enfin réussi à quitter Paris, et j'y suis fort souffrant. Caen, Bayeux, Le Mans, Fougères, Vitré, Valognes, Coutances, Paimpol sont à des titres divers des noms qui exercent sur mon imagination une fascination si grande qu'il est bien possible que j'aille de Versailles passer un jour ou deux à l'un de ces lieux vers lesquels j'ai si souvent voyagé en rêve. Peut-être ai-je plus près de moi des spectacles aussi émouvants. En tout cas, si je me décidais à partir pour la Bretagne, je me permettrais de vous demander quelques conseils, quelques mots de direction spirituelle que vous avez bien voulu m'offrir. Combien il est malheureux que des hommes comme vous ne puissent écrire, fût-ce une simple nomenclature de ce qu'il peut y avoir d'admirable ou de curieux dans chaque département. Il me semble que vous devez avoir des élèves qui, en notant des conversations, pourraient peu à peu faire cela. Je regrette bien, et je l'ai souvent regretté quand il s'agissait d'hommes que j'admirais profondément, que l'état de ma santé ne me permette pas d'exercer ces fonctions d'Eckermann qui me plairaient tant. Je n'ai pas voulu attendre d'avoir un conseil précis à vous demander pour vous remercier d'une lettre qui m'a tant ému. Et je vous demande encore, cher monsieur, d'accepter l'hommage de mes sentiments d'admiration et de reconnaissance profonde. Marcel Proust. Je vous demande bien pardon du style et de l'écriture de mes lettres que vous voudrez bien excuser en pensant que je suis très souffrant.
Marcel Proust, qui en cette année 1906 est âgé de 35 ans, cherche donc, il l'écrit, à voir des villes ou des sites qui puissent l'inspirer pour les décors du roman qu'il espère se mettre à écrire. Entre-temps, Émile Malle lui a répondu, ou du moins, est-ce la seule réponse d'Émile Malle que l'on a pu retrouver ? Elle est datée de Rouen, le 18 août 1906. Cher monsieur, je suis confus du prix que vous voulez bien attacher à mes lettres. Je ne suis pas un homme rare. Je n'ai pas ces qualités d'intuition profonde que je sens à chaque page d'un Ruskin ou d'un Michelet. Je n'ai qu'un mérite, c'est d'aimer la France. Depuis 20 ans, je n'ai guère laissé passer un jour sans l'étudier. C'est donc surtout au travail méthodique et à l'application que je dois les quelques qualités qui, dans mes travaux, ont pu vous plaire. Je suis heureux, en tout cas, que ces lettres vous fassent oublier un instant que vous souffrez. Ce sera avec bien du plaisir que je vous tracerai un itinéraire le jour où vous me direz que vous avez enfin triomphé de vos longues misères. J'espère, au projet que vous formez, que ce moment n'est pas très éloigné. Le voyage de Normandie serait peut-être pour vous le moins fatigant. Je vous indiquerai le moyen de le faire à petite journée en voyant plusieurs belles choses sur la route de Caen et de Bayeux. Il faudrait pour aller en Bretagne être tout à fait bien portant, car ce qui est intéressant en Bretagne, c'est moins les villes, souvent banales, que les villages sauvages où vous trouvez parfois une énorme église de granit tachée de lichen, un calvaire sculpté, un ossuaire. Mais tout cela est loin des routes, en pleine campagne. Je crois que la Normandie, avec ses villes peu éloignées, ses trains commodes, conviendrait mieux à un convalescent. Assurément, vous n'y respirerez pas la poésie comme en Bretagne. Il n'y a pas en Normandie de forêt de brocéliande. Jamais les chevaliers n'y furent aimés par les fées des lacs. Mais vous y trouverez les plus belles églises du XVe siècle qu'il y ait en France et de vieux monastères dont les ruines sont aussi grandioses que celles des monuments romains. Je pars après-demain pour Arcachon, mais une lettre de vous m'arrivera sans peine en passant par Paris. Croyez toujours, je vous prie, à ma vive sympathie, Émile Malle. Et c'est en 1907 que Proust ira à Cabourg, d'où il écrira à Émile Malle pour lui demander des conseils sur des excursions en Normandie. Et il aura enfin l'occasion de rencontrer le maître à l'automne de cette même année, mais c'est tout de même par écrit qu'il lui pose les mille et une questions qui l'intéressent.
Jeudi 8 août 1907. Cher monsieur, je viens de passer une année entière dans mon lit avec des crises aussi imprévues que n'osant pas faire un projet une heure d'avance, je n'ai pas cru pouvoir me permettre de solliciter de vous la faveur d'une visite, ce qui eût déjà été très hardi, que j'aurais pu me trouver hors d'état de recevoir, une crise étant survenue. Je me suis levé 5 fois cette année. Dernièrement, me sentant un peu mieux, j'avais envoyé quelqu'un chez vous vous exposer la situation et vous demander si vous consentiriez à venir me voir un soir. Mais je suis mal tombé. Vous aviez quitté Paris depuis 2 jours, étiez à la campagne et deviez, m'a dit votre concierge, repasser prochainement par Paris, mais en le traversant seulement pour reprendre un autre train. Tout projet de vous voir était donc irréalisable. Et voici que j'ai quelque chose de pressé à vous demander. Les indécisions m'ayant forcé en quelques heures à quitter Paris, je voudrais profiter peut-être du dernier voyage qui me soit concédé pour visiter des monuments ou des sites que vous me diriez particulièrement émouvants. Je suis momentanément à Cabourg, grand hôtel. Mais dans l'extrême instabilité de projet où me réduit mon état de santé, qui peut me forcer d'une heure à l'autre à rentrer à Paris comme il peut me permettre un plus long séjour, il serait peut-être plus prudent que vous me répondiez, si vous voulez bien me répondre, 102 boulevard Haussmann, Paris. Cependant, je laisserai mon adresse au grand hôtel. Répondez-moi où vous voudrez. Enfin, si vous perdiez ces 2 adresses, vous pourriez m'écrire à mon ancienne demeure, 45 rue de Courcelles, d'où l'on me ferait suivre certainement la lettre avec un peu de retard. Voici donc mes questions. Qu'y a-t-il de plus intéressant à voir en Normandie ? je ne me place pas exclusivement au point de vue cathédrale, ni même des monuments. En tout cas, une ville restée intacte, comme m'a paru jadis du chemin de fer ce mur qui m'avait tant plu, serait plus féconde pour mes rêves. Ou tel vieux pont. Ou, enfin, je ne sais quoi que vous connaissiez, qu'une cathédrale qui ne serait pas très particulière ou vraiment sublime. Et puisque nous parlons vieille ville, puis-je quitter dans ce paragraphe et pour une seconde la Normandie pour vous demander si Fougères, Vitré, Saint-Malo, Guérande sont des choses de premier ordre également, ou bien dans quel ordre, et si elles vaudraient la peine d'un voyage. Y a-t-il des équivalents ou supérieurs ailleurs et dans quelle région ? Pour revenir à la Normandie, y a-t-il des monuments, et si j'ai dit que je ne me limitais pas aux églises, renouvelés par votre parole, rendus à tout leur prestige par le fait d'être indiqués par vous, elles m'enchanteront. Donc y en aurait-il plus intéressant à Lisieux ou à Falaise ou à Vire ou à Bayeux, Côte-Bec, Ouistreham, etc., etc., ou à Valognes, ou à Coutances, ou à Saint-Lô, ou peut-être dans des endroits moins connus où la surprise de les trouver ne me les rendra que plus touchants, surtout si le paysage conspire un peu avec elles. Je ne tiens nullement à ces noms et accueillerai avec joie ce que vous me diriez. Si je me sens la force d'entreprendre un voyage en Bretagne, avez-vous certains points à me recommander particulièrement, beauté soit d'art, soit de nature, soit d'histoire, soit de légende? Et accessoirement, Roscoff et Paimpol sont-ils de premier intérêt? Et l'un des deux peut-il remplacer l'autre? Ou tous deux peuvent-ils être remplacés par un troisième? Enfin, si je ne pouvais ni rester à Cabourg ni aller en Bretagne, pourriez-vous m'indiquer près de Paris, en Seine-et-Oise par exemple, des choses qui vous semblent aussi frappantes pour l'imagination qu'en Normandie ou en Bretagne? Il y a à Cabourg, si les souffrances que j'y ai en ce moment se calment un peu, des taximètres automobiles qui me permettraient d'explorer même assez loin la Normandie. En général, à moins qu'il ne restitue un ordre d'existence tout à fait particulier, et sans partager d'ailleurs absolument les idées courantes à cet égard, les monuments restaurés ne me donnent pas la même impression que les pierres mortes depuis le XIIe siècle, par exemple, et qui en sont restées à la reine Mathilde, ceci dit en pensant à Caen, où je suis allé et où je peux retourner si vous me le conseillez, et où quelques paroles excitatrices et guidantes de vous m'auraient été indispensables. J'aurais eu 100 fois plus de plaisir. Le Mont-Saint-Michel est-il un monument très restauré? Ou bien une des plus belles choses de France? Je l'ai vu, mais quand j'étais tout petit. Sinon, la difficulté de l'accès m'y fera renoncer. Excusez-moi, monsieur, je suis si fatigué que je vous demande pêle-mêle des choses bien indiscrètes et bien ennuyeuses. Et c'est un profane ignorant qui vous sollicite. Mais vous savez que c'est aussi un fervent de votre parole. Veuillez agréer, cher monsieur, mes excuses et mon admiration reconnaissante. Marcel Proust, Grand Hôtel, Cabourg, Calvados, 102 boulevard Haussmann, Paris.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Toujours au Grand Hôtel de Cabourg, Marcel Proust, vers la mi-août 1907, raconte à son correspondant Émile Malle le résultat de ses visites-promenades. Notez que Marcel Proust affirme qu'Émile Malle devrait être élu à l'Académie française. C'est un peu prématuré puisque cette élection n'aura lieu que 20 ans plus tard, le 30 juin 1927, et qu'Émile Malle sera également élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, mais en 1918. Nous sommes pour l'instant en 1907.
Grand Hôtel, Cabourg, peu après la mi-août 1907. Cher monsieur, je vous remercie bien profondément de votre lettre si charmante et si belle. Je suis allé à Caen, à Bayeux, à Balleroy, à Dives, j'irai à Jumièges, si cela ne me fatigue pas trop, à Pont-Audemer, à Lisieux, à Saint-Georges-de-Vaucherville, à Falaise, à Saint-Vendry, j'irai, si je peux découvrir où cela est situé, à Cerisy-la-Forêt. Vous me dites de ne pas aller au Mont-Saint-Michel, mais vous dites que c'est une chose merveilleuse. Et cela me trouble fort. Si je me décide à y aller, je vous demanderai quelques directives plus précises. Je suis si étourdi de vivre un peu debout que je ne jouis de rien. J'ai passé une si triste année. J'ai fait quelques articles dans le Figaro que je vous aurais envoyé si j'avais osé. Rencontrant ici quelques académiciens, je leur ai dit que c'est vous qui devriez être à l'Académie française, et aussi à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Je sais que c'est bien peu de choses, moins que rien, mais dans une société qu'il faudrait le moins possible éloigner de la hiérarchie des esprits, il est impossible qu'un esprit premier comme le vôtre n'ait pas la première place. Je ne puis vous écrire dans le tumulte assourdissant et mélancolique de cet hôtel atroce et somptueux, mais j'ai voulu vous dire mon admiration respectueuse et reconnaissante. Marcel Proust. Les figures orientales de la cathédrale de Bayeux, partie romane de la nef, m'ont charmé, mais je ne les comprends pas, je ne sais pas ce que c'est. Et à l'extérieur, il m'a semblé qu'il y avait d'admirables statues sur les fêtes, mais difficile à apercevoir et à identifier. Je voudrais une vieille ville provinciale, balsacienne, intacte, et n'en trouve pas de complète. J'essaierai peut-être de Valognes, mais c'est bien loin.
On remarquera que Proust semble beaucoup aimer ajouter de longs post-scriptum à ses lettres. On ne peut manquer d'être frappé par le sérieux avec lequel l'écrivain se documente, lisant de gros ouvrages indigestes ainsi qu'il va nous l'expliquer.
102 boulevard Haussmann, le 10 ou le 11 décembre 1907. Cher monsieur, j'espérais chaque jour être en état d'aller vous remercier moi-même de votre précieux envoi. Les jours ont passé sans refroidir l'admiration que m'ont causé ces pages merveilleuses, mais sans m'apporter la force d'aller vous l'exprimer. Je peux dire qu'il n'y a pas une page de cette petite plaquette où je ne m'enchante de beauté qu'un jour je préfère aux autres, pour leur préférer le lendemain, celle que j'ai relue la dernière. Entre ces apparitions admirables et si ingénieusement synthétiques des églises de France, faut-il choisir les églises d'Auvergne avec leurs mosaïques de lave, ou les églises de Provence arrachant aux monuments romains leurs colonnes et leurs frontons? Je ne sais pas, car c'est toujours le même poète que vous êtes qui parle et qui s'égale à tout moment, soit qu'il trouve des couleurs sombres pour parler du mystère des églises carolingiennes, soit qu'il arrive lui-même à éliminer la matière de son style pour se donner, à l'instar des architectes de Saint-Urbain et de la Sainte-Chapelle, la joie de bâtir avec de la clarté. Pourtant, entre tant de belles et heureuses images, celle qui m'a le plus frappé, avec les savoureux monument mûri et doré au soleil de Chypre, c'est la peinture de ce hiératisme byzantin où vous avez montré qu'à côté de la persistance d'un dogme, il fallait voir l'immutabilité d'un cérémonial. Par là, vous avez rattaché cet art qui semble si loin de la vie, à la réalité. Une réalité mondaine et de cour. J'ai souvent pensé à vous ces temps-ci en feuilletant de gros livres fort indigestes comme les caractéristiques des saints du père Caillé, par exemple. Marcel Proust. Je suis si scrupuleux que pour une simple comparaison dans mes chroniques du Figaro, lesquelles pourtant n'ont rien à voir avec l'architecture, je lis d'énormes ouvrages. Une fois que j'ai bien vérifié l'exactitude de mon image, je suis dégoûté et je la supprime. De sorte que mes articles me prennent une heure pour les écrire, un mois pour des recherches après coup, que je n'utilise point, et une seconde pour les déchirer. Ce qui n'empêche pas le dernier de renfermer à propos de la cathédrale de Lisieux des erreurs énormes que je connais et que je n'ai pas le courage de rectifier. Je crois du reste que ceux qui, comme moi, n'ont aucun don pour ce genre d'études doivent éviter de mêler à ce qu'ils écrivent le peu qu'ils ont pu apprendre. C'est ainsi que j'avais promis au Figaro un article sur les églises qui ne sont plus, sur ce qu'étaient les églises avant que les révolutionnaires, la stupidité des protestants, la démence des archéologues, l'ignorance du clergé, l'audace des voleurs et la sollicitude des pouvoirs publics les eussent peu à peu dévalisées. Mais j'y renonçais en craignant de délayer le peu de poésie que peuvent avoir deux ou trois impressions personnelles dans une littérature qui est forcément de seconde main. L'exemple d'André Hallet n'est pas très encourageant. Excusez-moi, cher monsieur, de causer ainsi avec vous, comme ce soir, dont je garderai un si vif souvenir, où j'ai eu la joie de vous connaître. On faisait faire autrefois aux élèves une dissertation où ils devaient montrer ce qui est en effet fort raisonnable, que la prison où Cervantes écrivit Don Quichotte était beaucoup plus délicieuse à habiter pour lui que des palais ne sont. La loge de votre concierge est un des endroits dont je me souviendrai avec le plus de plaisir. Veuillez agréer, je vous prie, cher monsieur, tous mes hommages bien sincèrement admiratifs et reconnaissants.
Lorsque Marcel Proust fait allusion à d'énormes erreurs dans son article du Figaro sur Lisieux, c'est un article intitulé « Impressions de route en automobile » paru dans le Figaro du 19 novembre 1907. Et l'énorme erreur en question, c'est d'avoir désigné sous le nom de Notre-Dame la cathédrale de Lisieux alors qu'elle porte le nom de Saint-Pierre. Peut-être a-t-il confondu avec la cathédrale de Bayeux qu'il avait visitée également. Il est fort amusant de connaître l'opinion de Proust sur les académies et ce n'est pas le moindre intérêt de la lettre que vous allez entendre, courte celle-ci, et qui nous renvoie donc aux deux années précédant la guerre de 14.
102 boulevard Haussmann, le samedi 21 décembre 1912. Cher monsieur, je vois par hasard dans un journal d'il y a quelques jours que vous avez été candidat à l'Académie des inscriptions. J'ai beau savoir que la hiérarchie des talents et valeurs spirituelles est une chose, et l'ordre des académies et corps constitués une autre chose, qui n'imite et ne symbolise, quand même elle le fut le moins du monde, la première que fort imparfaitement, malgré cela, quand on a une admiration, une prédilection pour un grand esprit comme j'ai pour vous, on est toujours un peu scandalisé de le voir entrer dans son héritage et n'y pas être immédiatement reçu. Cela me rappelle le temps où, encore bien jeune, je causais avec des gens du monde, par hasard académicien, de mes amis M. France et M. Barrès. Et on m'étonnait beaucoup en me disant qu'ils n'avaient pas de chance d'arriver à l'académie. Je crois qu'ils s'en souciaient peu, et vous de même. Mais en moi, quelque chose était révolté. Et puis, le goût passionné de quelques-uns finit par devenir l'admiration générale, et les chances académiques se modifient. Mais si tant est qu'aucune académie puisse convenir à un être d'élite comme vous, c'est à l'Académie française surtout que je voudrais vous voir. Excusez-moi d'avoir saisi cette médiocre occasion de vous dire que dans ma triste vie, ne me levant que 3 ou 4 heures par semaine, c'est un des plus grands regrets de tous les plaisirs dont je suis privé que de ne pas pouvoir quelquefois vous voir. J'ai souvent voulu aller jusqu'à la rue de Navarre, mais ne sachant jamais d'avance comment je serai, je n'ai jamais osé venir à l'improviste, et d'ailleurs il est rare que je sois en état de parler. Veuillez agréer tous mes hommages admiratifs et dévoués. Marcel Proust.
Ainsi Proust consulte-t-il Émile Malle sur diverses questions de terminologie, d'histoire, de l'art, de sculpture, de coutumes, de noms de lieux et de personnes. Il craint d'employer un mot pour un autre. Par exemple, il ne voudrait pas confondre les mots beffroi, clocher, église.
102 boulevard Haussmann, le mercredi soir 25 ou le 26 décembre 1912. Cher monsieur, je ne vous réécris qu'un mot et vous ne prenez surtout pas la peine de me répondre. Mais quand vous m'avez dit, s'il y a 4 ou 5 membres de l'Académie qui aient ouvert mes livres, je ne sais pourquoi j'ai pensé à une page admirable entre tant d'autres et dont je ne me rappelle même pas en ce moment si elle se trouve dans votre grand ouvrage ou dans l'article sur les vitraux de l'histoire de l'art. Parlant de Saint-Urbain, mais je crois que mon souvenir agglomère aussi une phrase sur la Sainte-Chapelle et sur Tours. Vous dites à peu près ceci. Beaucoup mieux, mais c'est le sens. Mais devant cette Jérusalem céleste, brillante de clarté, qui oserait critiquer? Par un beau jour, quand les piliers posent leurs grandes ombres sur les grands vitraux, l'église tout entière semble devenue légère, comme ces petites églises que les donateurs portent dans la main. Excusez-moi de défigurer une phrase admirable. Vous dites, y a-t-il 4 ou 5 académiciens qui aient ouvert mes livres? Et moi je dis, y a-t-il 4 ou 5 académiciens? Y en a-t-il en vérité 2 ou 3 qui puissent écrire de telles phrases? Inventer cette délicieuse image. Et alors les autres peuvent avoir lu ou non, ceux qui auraient pu écrire cela l'aimeront et instruiront les autres. Pour ma part, sans me donner le ridicule d'une influence que je n'ai pas, je sais bien que si je sortais comme autrefois, et si je ressors jamais, j'aimerais lire ces choses à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Puisque je cite cette parole, connaissez-vous la paraphrase si comiquement et noblement Louis XIIIe de Corneille ? Et le superbe nez planté sur leur visage ne leur sert que d'un ornement. Ne me répondez pas. Excusez cette lettre écrite à ce moment d'extrême fatigue et agréez l'hommage de mon admiration dévouée. Marcel Proust.
La citation de Pierre Corneille à laquelle fait allusion Marcel Proust est issue de « Vêpres des dimanches », qui n'est pas une œuvre de Corneille parmi les plus connues. Enfin, voici la dernière lettre de la collection de lettres que Mademoiselle Gilberte Émile Malle a donnée à la bibliothèque de l'Institut de France. Celle-ci est datée de 1921. On verra que Marcel Proust est toujours aussi enthousiaste, admiratif des écrits d'Émile Malle.
Le mercredi 1er juin 1921. Cher monsieur, je viens de passer de longues années véritablement au tombeau où je suis toujours. Je n'ai même pas la force de corriger de mon lit les épreuves de mes livres. Mais je viens de prendre de la caféine pour pouvoir vous dire avec quelle joie je vous ai lu, avec des yeux qui pourtant n'y voient plus, dans la Revue de Paris. Votre étude sur l'art roman est admirable. Que ne l'ai-je connu jadis quand, d'Avalon, je gravis la colline de Vézelay. Peu de pages françaises me semblent égales à cette merveilleuse description du porche. Le trait des missionnaires tout ardents à partir évangéliser les sauvages eux-mêmes est un des plus frappants que je sache. Barrès, qui m'écrivit jadis de Vézelay que c'était ce qu'il connaissait de plus beau en France, regrettera certainement comme moi de n'avoir pas lu alors l'étude que je vais lui faire parvenir. Cette vie que vous retrouvez partout dans les scènes de Vézelay, ce sont vos pages elles-mêmes qui en sont surtout animées. Une seule objection, mais bien vague, m'a troublé. Je croyais avoir lu jadis sous votre plume que ce soulèvement des draperies byzantines tenait à des raisons textiles, peut-être même de blanchissage. Mais mon souvenir est vague comme un rêve. Et sans doute cette remarque, que du reste n'entacherait en rien votre magnifique tableau, est de Mérimée et non de vous. Moi qui admire tant vos œuvres, il n'y en a aucune que je place au-dessus ni même à côté de ces pages. Je tenais, malgré mon épuisement, à vous le dire. Si jamais de votre côté vous aviez, chose peu probable, à m'écrire, la meilleure adresse serait celle de la Nouvelle Revue Française, 37 rue Madame. Car la maison que j'habitais, boulevard Haussmann, a été achetée par un banquier, qui naturellement a voulu en faire une banque. J'ignorais alors l'existence de petites boules qui, introduites dans les oreilles, suppriment à peu près le bruit. Et la pensée qu'on allait défaire entièrement la cour, détruire et refaire l'escalier, m'a fait m'enfuir de la maison devenue inhospitalière. Comme les appartements sont très difficiles à trouver, je n'ai pas eu ce que je voulais, j'ai déménagé 3 fois en 2 ans, c'est pourquoi je crois que mon éditeur, la Nouvelle Revue Française, que je tiendrai au courant de mes déménagements ultérieurs, a supposé qu'il soit possible de me transporter, me semble la plus sûre adresse. Encore merci, cher monsieur de la joie, que m'a causé votre superbe étude, et veuillez, je vous prie, agréer l'expression de mes sentiments bien admiratifs et dévoués. Marcel Proust.
Au début de cette lettre, Marcel Proust dit qu'il va écrire à Barrès. Et en effet, il l'écrira dans une lettre qui a été datée de juin 1921. Et il écrit ceci. « Je vous écris pour ranimer en vous un souvenir qui ne doit pas être tout à fait éteint, celui du merveilleux narthex de Vézelay. » Vous m'écrivîtes un jour de là-bas que vous ne connaissiez rien de plus beau en France. Or, dans le dernier numéro de la Revue de Paris, une bien belle étude de M. Émile Malle sur l'art roman donne du porche de Vézelay une description remarquable et une interprétation plus plausible et plus profonde que toutes celles qui avaient été fournies jusqu'ici. C'est Barrès qui fait état de cette lettre dans ses écrits de Paris publiés en 1951. Et c'est ainsi, avec ces 8 lettres que vous venez d'entendre, que nous sommes autorisés à penser que Proust s'est inspiré des études d'Émile Malle pour la description de bon nombre de lieux dans ses romans, à commencer, et s'est démontré avec certitude, par « Du côté de chez Swann ». Ces lettres confortent l'idée qu'Émile Malle a suggéré à Marcel Proust tous les détails d'art religieux que l'on peut lire dans Swann, et elles confirment l'extrême minutie de Proust jusqu'au moindre détail. Je vous rappelle que Canal Academy met à votre disposition une émission sur Émile Malle lui-même, intitulée « Le Champollion des cathédrales ». Je vous rappelle aussi que l'on peut trouver dans la Gazette des Beaux-Arts un article de Philippe Kolb qui offre de très nombreuses précisions supplémentaires sur cet échange de correspondance. Et enfin, merci au comédien Fernand Guillot qui a donné sa voix à Marcel Proust.